Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Lundi 21 novembre, bonne journée, bienvenue au 98.5. Hier, c'était froid, surtout à cause des vents. Et c'est un peu le même scénario pour aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a autour de moins 10 ce matin à Montréal. Ennuagement, de la neige intermittente qui commence en mi-journée. Les vents sont légers ce matin et puis la cadence s'accélère tout au cours de la journée, ce qui fait que le refroidissement éolien devrait tourner autour de moins 17 degrés. Et le maximum officiel, c'est 1 degré. Donc, vous voyez l'effet des vents. C'est ce qu'on a connu hier et c'était vrai pour Montréal, c'était vrai en périphérie et même du côté américain. Disons, les températures glaciales dans l'État de New York, par exemple, découlaient beaucoup de ces vents importants. La neige intermittente va cesser ce soir. Il y aura un dégagement par la suite autour de 2 cm de neige. Et ça demeure extrêmement venteux pour la nuit, avec moins 5 degrés. Et puis demain, ben c'est du soleil, une bonne partie de la journée. Ça se couvre un peu plus en après-midi. Encore là, autour de zéro, mais c'est une température ressentie autour de moins 11 degrés. Puis plus on avance vers la fin de semaine, on se retrouve avec des températures à la hausse et possiblement, comme vendredi, on prévoit 5 degrés, donc au-dessus de zéro, et pas mal de pluie pour cette journée. On commence ce matin par la COP 27. Je pense qu'il y a comme une espèce de consensus de la part des observateurs. Là, il y a évidemment ce qu'on appelle le spin politique qui en découle. Mais essentiellement, puis je trouve que le titre, c'est dans Libération ce matin, qui est probablement le plus percutant, c'est que l'urgence climatique attendra. Alors, quel est le consensus? Le consensus, c'est d'aider, dans des termes qui demeurent flous, les pays les plus touchés par les changements climatiques, les pays qui vont affronter plus de catastrophes naturelles, qui sont des pays souvent plus pauvres, des pays qui vont vivre des mouvements de population. Donc, les pays les plus responsables de cette pollution, de ces gaz à effet de serre, sont d'accord sur le principe d'aider les pays. Évidemment, le fonds de compensation reste à être précisé, mais on sait qu'il y aura possiblement, globalement, là, une enveloppe d'à peu près une centaine de milliards par année qui sera accordée à ces pays. C'est un constat et c'est une chose. Par contre, pour ce qui est de la lutte, malgré tous les rapports qui ont été présentés, des rapports qui montrent un phénomène qui, malgré ces sommets, ne ralentit pas. C'est-à-dire que le réchauffement de la planète, les émanations de gaz à effet de serre continuent. Puis on a beau avoir eu Paris, on a beau avoir eu les derniers engagements de Glasgow, on arrive après ce sommet en Égypte avec la conclusion qu'on n'arrive pas à aller plus loin. Et que donc, le réchauffement va continuer avec tous les effets qu'on peut imaginer. Et le Canada est pointé du doigt parce que le Canada refuse, disons, de mettre énormément de pression sur l'industrie pétrolière. Appelons ça les énergies fossiles en général. Ce qui fait que, si on résume les propos d'experts, on s'en va toujours dans la même direction, avec probablement une cadence un petit peu moins élevée, mais on va se retrouver finalement avec des échéances qui vont nous amener de profonds changements dans notre société. Et la plupart des groupes environnementaux qui étaient présents en Égypte en arrivent à la conclusion que, dans le fond, l'industrie pétrolière contrôle pas mal le gouvernement canadien, que le lobby du pétrole demeure extrêmement puissant. Puis je comprends là, qu'on aura toujours besoin de pétrole, mais c'est clair que quand M. Guilbeault dit qu'il va mettre fin au financement public des énergies fossiles, on attend de le voir pour que ça soit très clair. Et on peut pas dire que le ministre Guilbeault nous a convaincus de bien des choses durant le sommet. Je comprends le dialogue, je comprends la discussion, mais dans la conclusion du sommet, on est encore bien loin. Puis peut-être que ça ne pourra pas se faire non plus. Peut-être que des mesures trop radicales ne sont pas applicables et qu'on devra davantage, plutôt que de parler de réduction de gaz à effet de serre, se dire comment on adapte les sociétés à ces changements qui s'en viennent quand même assez rapidement. Et puis pour en rajouter un peu ce matin, le Journal de Montréal nous parle de la cimenterie Mekanis qui a rejeté encore plus de gaz à effet de serre en 2021. C'est l'entreprise la plus polluante au Québec, arrive en deuxième place, quand même assez loin. La raffinerie Jean Gaulin de Valero, qui est située à Lévis. Et dans le cas des scénarios, avec Mekanis, grosso modo, là, ils augmentent, selon les données obtenues par le Journal de Montréal, d'à peu près 200 000 tonnes par année, les fameux gaz à effet de serre. Et vous avez le professeur Pinault de HEC qui dit, entre autres, que le plafond du marché du carbone est tellement haut que c'en est presque ridicule parce qu'on n'arrivera jamais à l'atteindre. Et donc, il n'y a pas de pression assez forte sur l'industrie, notamment du transport, pour réduire ces gaz à effet de serre. Et puis, je poursuis avec le Journal de Montréal ce matin qui nous dit qu'après 2 ans, après avoir testé la qualité de l'eau dans les écoles, il y a des milliers de buvettes et de robinets qui sont toujours non conformes en raison de la présence de plomb. Les travaux traînent à longueur, même si Québec a donné une directive assez claire. Alors, on sait qu'on a procédé à des analyses en 2020, également jusqu'en début de 2021. Puis, en gros, c'était 36 % des points d'eau d'écoles publiques qui dépassaient la norme acceptable de plomb par litre d'eau. Il y a des changements qui ont été faits dans certaines écoles, mais on a réalisé finalement qu'il reste beaucoup, beaucoup à faire, que les correctifs qui devaient être terminés pour la rentrée, ben c'est pas le cas. Et c'est une fois sur trois où on retrouve là, des problèmes. Maintenant, la guerre en Ukraine, bien sûr, les bombardements importants sur la centrale de Zaporizhzhia. Les experts de l'énergie atomique vont évaluer les dégâts. Alors, la centrale a été touchée par des frappes samedi, dimanche, et il semble que pour l'instant, en tout cas, les niveaux de radiation sont demeurés normaux. Et comme dans toute guerre, les deux parties, c'est-à-dire Moscou et l'Ukraine, se rejettent la responsabilité de ces frappes. Ce qu'on peut dire également, c'est qu'il y a eu aussi d'autres frappes et il y a quand même pas mal de mouvements de population à travers le pays. Et il y a ces images qui circulent depuis vendredi, qui sont présentées, des vidéos. Le New York Times, entre autres, partage ces images-là ce matin en disant que ce sont des crimes de guerre, exécutions de prisonniers de guerre russes. On parle d'une douzaine de soldats. Les images sont évidemment terrifiantes. Et d'un côté, les Russes disent « voilà la preuve, ils ont été abattus courte distance, donc abattus pratiquement à bout portant, par des Ukrainiens ». Et l'Ukraine répond que ces soldats se sont défendus face à une attaque russe. Alors, on demande une enquête et ça fait partie de la longue liste des crimes de guerre qui ont été, disons, notés depuis le début de ce conflit. Parlons de la Coupe du monde du Qatar qui s'est amorcée en fin de semaine, avec d'ailleurs une défaite du Qatar contre l'Équateur. Alain, il disait, malgré toute la controverse, ce sont des milliards de dollars de billets qui ont été vendus partout à travers le monde. Et simplement pour vous donner quelques chiffres, le budget global de l'opération, c'est 220 milliards. C'est incroyable. Ça veut dire la construction de stades, 8 stades qui ont été aménagés. Je pense qu'il y en a un qui existait, qui a été rénové. Les autres, ce sont des constructions récentes, pouvant aller chercher pas loin de 80-90 000 spectateurs. C'est supposé être climatisé en raison de la température au Qatar. Le Qatar qui est allé chercher la Coupe du Monde tout en faisant bouger le calendrier, justement, à cause de ces températures élevées. Les enjeux qu'on a vus concernant, par exemple, le droit des homosexuels, la consommation d'alcool, l'exploitation de travailleurs étrangers, des centaines et des dizaines de morts dans plusieurs chantiers. Bref, coupe de la controverse. Et je voyais en fin de semaine ce documentaire sur Netflix concernant la FIFA et l'octroi de la Coupe du Monde au Qatar. C'est une opération corrompue de A à Z. On a réussi à convaincre la France d'appuyer le Qatar. C'est Michel Platini, ex-vedette du soccer en France, qui fait partie de l'exécutif de la FIFA, qui aurait été un peu, il a donné plusieurs versions, il n'a jamais été reconnu coupable de quoi que ce soit, mais quand même un peu utilisé par Sarkozy. Rencontre privée à l'Élysée. Sarkozy n'est pas là, mais l'émir du Qatar est présent et sa cour. Puis on explique comment ce serait important d'avoir l'appui de la France. Et par la suite, le Qatar, ayant eu des garanties, a investi dans le Paris Saint-Germain, a investi dans des droits de télé, puis le pays a acheté des Airbus puis des avions Rafale. Et là, on parle quand même d'un retour en termes d'investissement extrêmement important. Puis d'autres membres de l'exécutif qui ont carrément été achetés, un million et demi d'euros. Très difficile, malgré les arrestations, d'obtenir des condamnations. Donc, sur le plan technique, le Qatar arrivait dernier de classe. Pas d'infrastructure touristique, pas assez d'infrastructure sportive. Petit territoire où tout est à faire, contrairement, par exemple, aux États-Unis. Et Clinton était l'espèce de chef de mission quand les Américains n'ont pas eu gain de cause pour les Jeux. Et puis, on ira au Qatar ce matin parler à Alexandre Pratt, qui est journaliste pour La Presse. Revenons maintenant sur cette fusillade au Colorado en fin de semaine. 5 morts, 25 blessés dans un club LGBTQ. Ça s'est passé à minuit. Et c'est un endroit qui était bondé. Les gens s'amusaient. C'était la fête. Et soudainement, quelqu'un est entré à l'intérieur, armé, ce qu'on pense être, là, ça reste à confirmer, une arme de type AR-15, et avait également une arme de poing, et a fait feu, hein, au hasard, pendant moins d'une minute. Ça a été rapide, mais quand même, 5 morts, 2 blessés, toujours dans un état critique à l'hôpital. C'est un jeune homme de 22 ans qui a été arrêté. Et ce que les policiers ont expliqué hier, c'est que un client de l'établissement a pu s'emparer de l'arme de poing du tireur fou, l'a frappé à la tête, il est tombé au sol, puis avec un autre client, ils ont réussi à l'immobiliser dans l'attente de l'arrivée des policiers. Et ça a rappelé tellement de mauvais souvenirs, fusillade dans un club gay en Floride il y a quelques années, supposément par quelqu'un se disant inspiré par l'État islamique, mais c'était pas très clair. Là, il y avait des enjeux autres que ceux-là. Et il semble aussi que le gars qui a été maîtrisé, qui a 22 ans, il y a à peu près un an, un petit peu plus qu'un an, avait menacé sa mère de faire sauter une maison, la maison où sa mère habitait, avec une bombe artisanale. Et ce sont les policiers qui l'avaient convaincu pas mal de se calmer. Et on le disait tantôt, pour ce qui est du collège Lionel Groulx, il n'y a pas de cours aujourd'hui. Puis je rappelle que le suspect, là, celui qu'on a vu sur les images, était en fait un ado qui n'avait pas de mauvaises intentions puis qui n'avait pas d'arme comme telle. Il se promenait avec un jouet. Aussi, on reparlera de ce sommet de la francophonie qui prenait fin dimanche. Le premier ministre Legault et le premier ministre Trudeau ont eu le temps de jaser. Notamment pour ce qui est du financement en termes de santé. M. Legault a dit « Je suis prêt à fournir mes données au fédéral ». M. Trudeau a eu de bons mots pour le Québec. Là, il faut voir jusqu'à quel point le fédéral est prêt à, disons, hausser sa contribution pour le financement de la santé. Québec a dit « On veut l'argent, puis on ne se fera pas imposer des conditions, puis c'est pas vrai qu'ils vont nous mettre des critères, mais c'est clair qu'on a besoin d'un financement accru ». Deuxièmement, M. Legault dit qu'il veut faire plus de transactions économiques avec la France. Donc, ça, c'est un vœu pieux un peu, parce qu'historiquement, tu sais, on a toujours vanté les mérites de cette belle relation avec la France, mais sur le plan économique, ça s'est pas toujours traduit par des investissements massifs ou par des échanges commerciaux vigoureux entre le Québec et la France. Je me souviens d'une époque où même l'Ontario aller en chercher un peu plus. Alors, je comprends la volonté, mais disons que ça reste à démontrer. Et puis dans La Presse ce matin, on vous parle également de projections qui montrent que le poids démographique du Québec sera autour de 18% dans le Canada en 2047. C'est loin, puis c'est pas si loin que ça. Et quand on dit un poids démographique de 18 % là, ça veut dire aussi l'influence politique qui continue, disons, de disparaître. Et toujours dans la presse, il y a ce dossier concernant des visas qui ont été remis depuis le début de la guerre en Ukraine. Le Canada est extrêmement généreux. Fallait le faire. Ça a permis d'accueillir des milliers de personnes, sauf qu'on se rend compte, comme c'est souvent le cas avec le gouvernement fédéral, que les contrôles sont un petit peu limités, qu'on pose pas trop de questions, ce qui fait que vous avez des gens de, je dirais, tous les horizons qui sont arrivés au Canada avec ce programme. Puis là, on sait qu'on veut normaliser la situation aussi pour ceux qui passent par le chemin Roxham, pour leur permettre de travailler plus rapidement. Puis on comprend ça, là, l'idée, c'est pas de les garder sur une tablette puis attendre, mais aussi, faut s'interroger sur la capacité globale d'accueil, réfugiés, immigrants. C'est bien beau tout ça, là, puis c'est vrai que faut se tourner vers une immigration francophone. On parlait de la fermeture du Canada face aux étudiants africains, ce qui c'est mesurable, là. Mais en même temps, jusqu'où on va, puis quelle est notre capacité réelle dans un dossier comme celui-là. Et puis le Parti québécois qui tente le tout pour le tout, là, il y a une lettre qui circule. En gros, je pense qu'on s'entend là avec les libéraux, Québec solidaire puis la CAQ, mais le PQ dans un coin, en tout cas, ce qu'on peut lire ce matin, entre autres dans Le Devoir, puis j'ai vu la lettre aussi là que Joël Arsenault a envoyée aux autres leaders des partis, là, les représentants. On leur offre 500 000 comme budget, ils demandent 800 000, puis ils demandent une question à la période de questions. Et d'être membre du bureau de fonctionnement de l'Assemblée. Ils ont laissé tomber un paquet de trucs, là, comme le statut de leader parlementaire pour Pascal Bérubé. Alors, il y a comme trois revendications qui sont les plus importantes. Est-ce qu'on va trouver ce terrain? Puis il reste encore l'enjeu là du serment aussi, avant la reprise des travaux parlementaires qui est prévue pour la semaine prochaine. Puis je veux terminer ce matin avec un exemple du réseau de la santé. Tu sais, c'est le genre de courriel, tu te dis, ben voyons donc, ça ne se peut pas. Puis, j'ai reçu 120 semaines, pas pu vérifier, mais je partage ça avec vous parce que je suis convaincu que c'est vrai. C'est une femme qui m'écrit, elle a une petite fille de 5 ans. La petite est hospitalisée depuis vendredi, influenza et scarlatine. On sait, les enfants ont, disons, un automne difficile. Elle dit, moi aussi, je me retrouve avec des symptômes d'influenza et de scarlatine. Je suis avec ma fille à l'hôpital. C'est l'hôpital du Haut-Richelieu. Et là, elle dit, y a-tu moyen d'avoir des antibiotiques? Est-ce que je peux avoir une culture de la gorge pour savoir ce que j'ai exactement? Réponse, descendez à l'urgence. Là, tu dis, attends un peu. T'es avec ta fille. Ta fille a un diagnostic, là, c'est clair. Influenza, scarlatine. La mère a les mêmes symptômes. Le père, en passant, est resté à la maison avec les trois autres enfants. Puis là, la mère est avec sa petite de 5 ans. Elle a besoin, je pense, d'être présente, comme son enfant a besoin d'être avec sa mère. Puis là, tout ce qu'on retrouve à dire, ben descendez à l'urgence pour aller vous faire tester. Ça veut dire quoi? Cas pas urgent. Passe au triage, puis attends 12 heures, 14 heures, 15 heures. C'est une aberration. Et c'est probablement le protocole qu'il faut suivre. Puis il y en a combien des exemples comme ça? Alors, quand je vous parle de ces procédures, de cette lourdeur de paperasse, ben c'en est un exemple quand même assez frappant.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan.
On a appris vendredi le décès de Jean Lapointe à l'âge de 86 ans. Et avec le recul, on se rend compte à quel point c'était un artiste polyvalent, à quel point il a touché à toutes les sphères du métier, que ce soit faire rire les gens, les distraire, les toucher, par la musique bien sûr, mais aussi par des rôles marquants. On pense au film Les Ordres, la série Duplessis. Et sur le plan social, engagement contre les dépendances, je me souviens, j'ai un souvenir très précis d'une rencontre avec lui. On parlait de la maison Jean Lapointe et il m'a dit « J'ai été un des premiers à parler publiquement de mes problèmes d'alcool, dire que j'étais un alcoolique. » Avant, on disait pas ça. On avait l'étiquette d'ivrogne puis c'était pas très, très glorieux. Donc, à l'époque, ça prenait quand même du courage pour le faire. Implication politique. J'en parle ce matin avec son fils, Jean-Marie Lapointe. Jean-Marie, bonjour.
Allô, Paul.
Ben, d'abord, toutes nos condoléances. Là, je parle évidemment au nom de nos auditeurs. Ça a dû être, depuis les derniers jours, une spirale d'émotions, hein?
Ben, une grosse spirale, effectivement, mais surtout une immense vague d'amour, une immense vague de reconnaissance, d'appréciation. Tu l'as dit tantôt, tu sais, c'était un homme plus grand que nature, puis qui était hyper touchant. Et j'ai une belle pensée pour... tu sais, moi, je vis mon deuil avec mes sœurs, avec des amis, et je suis pas seul. Quand je suis dans mon salon, j'ai juste à ouvrir mon téléphone, j'ai des milliers de messages d'amour. Puis là, il y a tellement de gens, au même moment où on se parle, qui en ont un deuil, qui en vivent un, et ils ont pas ça, ce support-là. Alors, ils vivent le deuil dans le silence, dans la tourmente, puis dans l'isolement. Alors, tu sais, moi, le lendemain là, du décès de papa, j'étais en conférence à Québec. Les gens ils me disaient « Mon Dieu, vous êtes donc bien fin d'être venu. » Je dis « Ben écoutez, de façon bien égoïste, je pense que j'en avais besoin, moi. J'avais besoin de cette vague d'amour-là, puis vous m'aidez à passer à travers une passe difficile. » Puis c'est exactement à l'image de papa. Quand papa a perdu sa femme, ma mère, Marie, en 91, le 16 juillet, ben le 17 juillet, il était sur la scène. Donc, c'était vraiment « the show must go on », puis il y avait cet amour du public-là. Et c'est un peu en son hommage que je continue, moi aussi, à ma façon de pas annuler mes contrats puis de dire à tout le monde « gardez, gang, je suis avec vous autres, mais j'ai besoin de vous autres aussi ».
Tu as fait une entrevue avec ton père il y a pratiquement une dizaine d'années, là, 8 ans, je pense.
Ouais.
Et l'engagement, c'était de diffuser, donc, après son décès, ça a été présenté sur TVA. Comment ça s'est, discuté cette entrevue-là avec ton père?
En fait, contrairement à ce que j'avais imaginé, puis tu sais, François Roson, Éric Bellé, toute la gang d'Encore qui avait préparé le concept, il me l'avait dit, t'aimerais-tu faire l'entrevue? Je dis oui, mais à condition que papa accepte, parce que good luck, hein? Et effectivement, papa a accepté. Il m'a dit, ben justement, à cause que c'est toi, je vais la faire. Alors, c'est un concept un peu original. Au lieu de des célèbres, excuse l'expression, on la connaît dans le jargon, mais des viandes froides. Des viandes froides, là, c'est des documents qui sont préparés d'avance. Et quand une personne meurt, ben on met la cassette dans le vidéo, puis ping, on pèse sur play, et là, il y a un hommage. Tu sais, c'est déjà prêt d'avance. Alors, nous, on s'en est inspiré. Et on faisait l'entrevue comme ça. Et la condition, c'est dès que papa est mort, on la diffuse. Mais honnêtement, vendredi, quand j'ai eu le téléphone, c'est même Pierre-Carl Péladeau qui m'a appelé directement. Et Denis Dubois, qui est des boss de la programmation à TVA, il m'a demandé la permission. J'ai dit oui. Puis on avait déjà dit oui. Puis papa avait dit oui. Puis ma famille avait dit oui aussi. Alors on l'a fait. Et je t'avouerais que on s'est vraiment bien préparé et on est allé dans toutes les directions. Parce que le concept, là, c'est que mon père va raconter tout ce qu'il a envie de raconter à cœur ouvert. Il ne censure pas. Mais moi aussi, j'avais envie qu'il ne se censure pas. Et moi, comme animateur, je voulais pas me censurer. Parce que le piège, quand tu fais une entrevue avec quelqu'un de proche, c'est de passer à côté des questions essentielles. Et ça, on l'avait préparé, Éric Bellé et moi. Alors, on est allé dans toutes les directions, y compris des sujets délicats, comme l'addiction, comme ces problèmes de dépendance. Et papa s'est prêté au jeu jusqu'à un moment donné où il dit, attends une minute, là, ça, là, regarde, on y va pas. J'ai pogné un gros 2 minutes, là.
Il voulait aller, tu voulais aller où et pourquoi il voulait pas y aller?
Ben, tu sais, parler de l'addiction, papa a eu des problèmes de dépendance une grande partie de sa vie, puis il s'est pas caché qu'il y avait des problèmes d'alcool, de dépendance aux benzodiazépines, puis le jeu aussi. Mais tu sais, le jeu, c'est quand même un tabou. Puis papa, c'était un grand dépendant au niveau du jeu. Puis j'ai l'impression que quand il était au sénateur puis qu'il voulait bannir les loteries vidéo, c'était aussi pour s'affranchir puis se libérer de sa dépendance. Et moi, je voulais qu'il aille là. Puis papa, à un moment donné, tu sais, une personne qui a des problèmes de dépendance va pas toujours reconnaître l'ampleur de la dépendance. Ça fait partie de la maladie. Et quand je suis allé sur ce terrain-là avec papa, il a fermé boutique. Puis à un moment donné, on le voit pas dans l'émission. Écoute, j'ai pas vu l'émission hier, là. Hein. Je parle de mon souvenir, puis ça fait 8 ans de ça. Mais je me rappelle que papa s'est levé, puis il a menacé de tout tricher ça là. Puis il dit, ah, tu continues là, moi je m'en vais. Puis il était capable de boquer de main. Puis là, ben, on arrête l'entrevue. Puis quand on y recommençait, papa est revenu de sa pause cigarette parce qu'il fumait à l'époque. Puis là, j'ai dit, écoute papa, faut que je te dise de quoi. C'est pas à toi que j'en veux. Je t'en veux pas. Je t'ai toujours aimé. J'en veux juste à la crise de dépendance qui nous a éloignés, qui nous a empêchés peut-être d'être ou d'aller dans une vraie relation sans limitation par rapport à ta dépendance. Je voulais vraiment retrouver mon père parce que la dépendance nous a empêchés ou nous a enlevé une partie du père, tu sais. Puis c'est ce que j'ai compris. Puis j'ai dit à papa à cœur ouvert, j'ai dit, écoute papa, je t'aimerai toujours, malgré les problèmes de dépendance, je m'en contrefou, mais je voulais juste te donner ce cri du cœur-là. Puis quand papa, je t'en parle avec encore émotion, il m'a vu tout vraiment vulnérable et frêle. Je pense qu'il a vu le petit garçon qui, comme quand j'avais déjà supplié à mon père à genoux à l'âge de 6-7 ans d'aller en thérapie. Je pense qu'il a revu ça. Puis ça a changé la donne. Il s'est ouvert comme un dépanneur. 24 heures sur 24, c'était complètement ouvert. Et là, ça a changé la donne. Et ça a donné une entrevue. Et j'ai ramené papa, moi, là. Je le ramenais, ben, j'y avais donné un livre. Ça, c'était une des raisons qu'il fallait régler le problème, parce qu'on était à l'autre bout du monde, cette entrevue-là. Alors, je l'ai ramené en auto. Puis quand je l'ai déposé à la maison, il est allé dire à Mercedes, sa conjointe, je viens de vivre un plus beau moment avec mon fils. Ça nous a rapprochés pour toujours.
Wow. Est-ce que tu penses qu'il a dit des choses en sachant que ce serait diffusé après sa mort? C'est-à-dire que ils diront bien ce qu'ils voudront, je ne serai plus là.
Exact. Et ça, papa, il le disait de son vivant. Il l'a fait quand il était sénateur, il l'a fait dans les télétons dans la pointe, il l'a fait en entrevue. Je sais même pas combien de fois tu l'as eu en entrevue. Ouais. T'as bien dû voir que papa, il se censurait pas bien. Puis surtout avec des gens qu'il aimait, qu'il appréciait comme toi. Alors, il ne se censurait pas, puis il s'est vraiment laissé aller. Mais là, je dirais pas tout, mais je peux te dire que Pierre Séguin, qui est le réalisateur, a fait une job extraordinaire de couper des affaires parce que il s'est lâché lousse. Il y a des personnes, je suis bien content qu'ils n'ont pas tout entendu parce que des fois c'est trop élogieux, puis des fois c'est hey boy,
okay,
il roule dans garde-notes là.
Il a réglé ses comptes un peu.
Oui, exactement. Mais par respect pour papa, puis par respect aussi pour certaines personnes, c'est peut-être mieux qu'on n'entende pas ça. Puis c'est bien correct.
Okay.
C'est bien correct. Mais oui, c'est lâché lousse, c'est pas censuré.
Mais je me souviens d'une fois, il y avait eu le Téléthon Jean Lapointe, évidemment, et on l'avait, je dirais, accusé d'avoir pleuré à l'antenne, pratiquement sur commande, d'avoir joué le rôle pour générer des dons. Mm-hmm. Et je l'avais reçu le lendemain. J'ai rarement vu quelqu'un boucaner là de colère comme ça, puis de dire là je veux parler, puis c'est pas vrai qu'on va attaquer la cause, puis on va m'attaquer. Puis tu sais, il était là en mode explosion.
Ouais, c'est ça, papa. Et quand il est en direct, il n'y a pas de filet. Il se lâche lousse. Peut-être qu'il va dire des choses qu'il va regretter, mais c'est ça aussi. Et c'est une des plus grandes qualités de papa dont moi j'ai hérité, puis aussi mes sœurs, c'est cette capacité à être vrai, à être vulnérable, puis à dire tout haut ce qu'on pense, bien des fois tout bas. Papa l'a toujours fait, et probablement que c'est une des raisons pour lesquelles on aime mon père. C'est qu'il était vrai. Et tu l'as dit tantôt en introduction, il fallait avoir du courage en maudit, sortir des boulamites, puis dire dans les années 70 que je suis un alcoolique. Et ça, j'ai l'impression qu'il a gagné beaucoup plus d'admiratifs que de détracteurs.
Est-ce que c'est difficile de porter le nom Lapointe? Ou ça a été difficile quand tu avais 10 ans, quand tu as commencé à faire ce métier-là, de bâtir ton prénom? Parce que quand même, là, c'est un monument.
C'est un monument, mais tu sais, demande à un fils ou à une fille d'un mafieux ou d'un pégreux, je pense que c'est pas mal plus difficile, tu sais, même si la personne vit dans le droit chemin. C'est pas difficile, au contraire, porter le nom de la pointe, je suis très fier. Vous avez même une membre de notre famille qui s'appelle Lise dans votre équipe, elle aussi doit être fière de porter le nom de la pointe ce matin. Moi, je te dirais que c'est une très, très, très grande fierté, mais c'est à un moment donné, quand tu arrives à l'âge adulte, tu veux un petit peu t'affranchir de ton père, parce que mes sœurs et moi, on a toujours été la fille ou le fils d'eux. Et à un moment donné, ben, on fait notre petit bonhomme de chemin, et papa en était conscient, tu sais. Moi, j'ai même commencé le métier. Moi, je m'appelais Jean. Je détestais le prénom Jean-Marie, qui est, en passant, le vrai nom de mon père. Son vrai prénom, c'est Jean-Marie. À un moment donné, moi, au secondaire primaire, au secondaire, puis au cégep, je vais appeler Jean. Puis là, papa, il m'a dit, ben là, tu vas reprendre ton nom, là. Deux Jean Lapointe dans le business, ça n'a pas d'allure, là. Reprends ton vrai prénom. Là, j'ai pris Jean-Marie, et avec les années, je me suis aussi différencié de la carrière de mon père. Et papa m'a dit, tu savais le nombre de personnes aujourd'hui qui me disent, ah, c'est toi le père de Jean-Marie. C'est drôle. J'étais devenu un petit peu plus le père de Jean-Marie, parce que si tu parles à des 40 ans et moins, Jean Lapointe, là, c'est une maison ou c'est peut-être un sénateur et encore, tu sais. Et c'est un peu triste quelque part que les gens oublient qui est Jean Lapointe, mais t'sais, moi, je me croisais les doigts. On va-tu faire des funérailles nationales? On va-tu en faire un emblème? J'espère, parce que sa culture, son immense talent artistique, ses chansons, son œuvre, il faut que ça survive.
Jean-Marie Lapointe, merci beaucoup vraiment d'avoir pris ce temps-là avec nous ce matin.
Ah, c'est un immense plaisir, puis un honneur, puis maudit que je vous écoute. Je vous aime, puis vous me faites du bien à tous les matins.
C'est gentil. Salut.
Bye, bonne journée.
Jean-Marie Lapointe témoignait sur son père, Jean Lapointe, qui est décédé. Quand on parlait tantôt d'artiste polyvalent, on le sait, des rôles marquants pour des gens qui l'ont souvent découvert, que ce soit, je le disais, dans le film Les Ordres, qui nous ramenait évidemment à la crise d'octobre, ou dans la série Duplessis, qui d'ailleurs est reprogrammée par RTV, où il incarne Maurice Duplessis. Puis ça aussi, ça a été controversé à l'époque. Je me souviens des gens de l'Union nationale qui se plaignaient de l'image, puis de dire... En quoi Jean Lapointe ressemble à Maurice Duplessis? Ben, il en a fait son personnage. Et avec tous les extraits qu'on diffuse dans l'émission, vous êtes en mesure de mesurer le talent. Mais c'est quelqu'un qui a touché les Québécois avec sa grande sensibilité.
Si on chantait ensemble des mots qui nous ressemblent, si on chantait la vie et parlait tant qu'il court, si on ne chantait que l'amour, si on chantait ensemble des mots qui nous rassemblent, si on chantait nos rêves et vu le temps qu'il fait, si on ne chantait que la paix, ils sont passés.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute.
Alors, on va commencer avec la Coupe du monde de soccer qui s'amorce officiellement. Le Qatar, d'ailleurs, a perdu son premier match contre l'Équateur. Une Coupe du monde qui est controversée depuis que la FIFA a accordé ce prestigieux tournoi donc au Qatar. Toutes les raisons ont été invoquées. On a parlé de corruption. Et on a surtout parlé, par exemple, des conditions de travail épouvantables des travailleurs immigrés qui ont construit tous ces stades, toutes ces installations, ces infrastructures. Je fais le point avec Alexandre Pratt, qui est chroniqueur à la presse et qui est donc l'envoyé spécial au Qatar. Alexandre Pratt, bonjour.
Bonjour, Paul.
Je veux revenir d'abord sur le point de presse du président de la FIFA. Là, en tout cas, en lire les comptes rendus, c'était assez, disons, surréaliste. En gros, le message, si on a quelqu'un à blâmer, c'est lui, c'est la FIFA. Il faut pas blâmer le Qatar pour ce qui se passe.
C'est exactement ça. Écoute, Paul, en 25 ans de métier, j'ai jamais assisté à une conférence de presse aussi absurde, qui, en fait, a commencé par une charge contre les pays occidentaux qui a duré une heure pendant laquelle le président de la FIFA littéralement dit aux gens de l'Europe, ça fait 3000 ans que vous commettez des atrocités, vous en avez pour 3000 ans à vous excuser avant de pouvoir faire la leçon à un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme comme le Qatar. Donc ça a été spectaculaire. Après ça, il a dit aux journalistes, il a demandé spécifiquement, cessez de critiquer le Qatar, critiquez-moi. Et après, quand on lui a demandé, est-ce que vous considérez que c'est une erreur, en fait, que la FIFA a donné les jeux au Qatar, il a répondu, écoutez, j'étais pas là quand ça a été donné, donc je peux pas être le responsable de ce qui est arrivé.
Bon, il y a quand même un certain nombre de faits là, qui demeurent litigieux. Je vois ce matin, par exemple, que l'Angleterre et d'autres clubs qui avaient l'intention de porter des espèces de signes pour dénoncer la discrimination se sont fait dire par la FIFA qu'ils pouvaient pas le faire. Les matchs ont commencé, mais il y a toujours un fond de tension pareil qui persiste.
Ben, il y a une tension énorme. Présentement, je me trouve au stade où il y a le match Angleterre-Iran qui commence dans 5 minutes. Et le capitaine dans l'Angleterre a manifesté son intention de porter le brassard et on a appris il y a seulement 1 heure. C'est un brassard multicolore pour appuyer les droits des membres de la communauté LGBTQ ici. Et là, il y a 1 heure, on a appris que les joueurs qui porteraient ce brassard seraient sanctionnés, ils auraient des cartons et peut-être même qu'ils ne pourraient pas participer à la rencontre. Donc, c'est une très grosse histoire ici. Il y a 7 pays qui ont demandé à leur capitaine de ne pas porter le brassard et là, on va savoir dans 5 minutes si Harry Kane portera ou non le brassard pour l'Angleterre.
Parle-moi de la météo. Là, tu es dans un stade, ça ressemble à quoi? C'est climatisé, il fait chaud, ça se passe comment?
Ah oui. Ben justement, je suis dans un des stades qui est climatisé et c'est très froid dans le stade. C'est assez impressionnant le système de climatisation. Il y a des centaines de bouches immenses là, qui nous garochent de l'air dessus. Sinon, à ville, il fait chaud. Il fait environ 33 degrés avec humidex. Là, on est sur le bord de mer, c'est à peu près 37-38. C'est très, très chaud. Et honnêtement, j'ose pas imaginer comment ils font l'été pour construire des édifices, des stades, par exemple le métro, la promenade sur le bord de la mer. Écoute, il fait 50 degrés ici l'été. Là. J'ai parlé à une femme, une Québécoise, là, qui est une marathonienne. Elle m'a dit que la première fois qu'elle est sortie faire une course, elle est revenue, elle avait des bulles dans la peau tellement il faisait chaud. Donc, imagine les conditions de travail dans lesquelles les migrants ont travaillé pour construire ces stades-là. Il y en a des centaines qui sont morts dans ces conditions-là.
Et si on regarde quand même l'aspect sportif, est-ce qu'il y a quelques pays qui se détachent là pour la Coupe?
Oui, ben en fait, à surveiller l'Angleterre, qui joue tantôt, qui est un des favoris. Il y aura le Brésil aussi qui compte par les favoris. Et le Canada, ici, est vraiment considéré comme... une potentielle équipe Cendrillon. Presque tous les experts que je croise ou auxquels je parle des autres pays, les mettent, leur font passer la prochaine ronde. Surtout qu'ils ont un calendrier peut-être avantageux avec la Belgique qui compte plusieurs blessés, dont un de ses 2 meilleurs joueurs. Donc, le Canada amorce son tournoi ce mercredi face à la Belgique en après-midi.
Parfait. Merci beaucoup, Alexandre Pratt, qui nous parlait en direct du stade, un des nombreux stades au Qatar pour la Coupe du Monde et pour ceux que ça intéresse. Sur Netflix, vous retrouvez un documentaire sur la FIFA et sur la façon dont le Qatar est allé chercher cette Coupe du Monde disputée cette année. Toile de fond, la corruption et notamment le rôle de la France, du président Sarkozy à l'époque, de Platini, grande vedette du foot en France, qui était aussi membre du comité exécutif de la FIFA. Et ils sont allés, comme on dit, sécuriser le vote français, en fait, les délégués du Qatar, lors d'une rencontre au Palais de l'Élysée. Et puis finalement, ben ça s'est traduit par des investissements du Qatar pour l'achat du Paris Saint-Germain, le club de foot, des droits de télévision, disons, bonifiés, et l'achat d'équipements comme des Airbus et des avions Rafale. Il y a eu plusieurs accusations, peu de condamnations, mais c'est clair qu'il y a beaucoup d'argent. La facture totale de cet événement tourne autour de 220 milliards.
L'essentiel de Paul Arcan.
Puisqu'on parle de la COP27, c'est vraiment mitigé. Évidemment, on s'est réjoui de la création d'un fonds, quoique les modalités restent vraiment, et les montants là, à définir. Mais il n'y a pas d'entente sur la fin des énergies fossiles. Et le Canada, d'ailleurs, est assez blâmé par plusieurs pays participants et aussi par des organismes. J'en parle avec Eddie Pérez, qui est du réseau Action Climat Canada, donc qui a participé à la COP27. Monsieur Pérez, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
Parlons rapidement d'une entente de principe là pour un fonds pour aider les pays qui seront les plus touchés par les changements climatiques. Bon, le principe de base est intéressant, mais il reste beaucoup de choses à dire là-dessus encore, là, puis beaucoup de fils à attacher.
Ben, écoutez, c'est pas juste la création d'un fonds qui compte. C'est quand même une percée historique parce que depuis 30 ans, en fait, lorsque vient le temps de parler des conséquences des changements climatiques, des pays comme le Canada ou les États-Unis ont bloqué tout effort afin de parler de réparation ou de compensation après les désastres amplifiés par les changements climatiques. Alors, hier, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que cet effort de mobilisation des pays les plus vulnérables, ça apporte fruit. Et donc, ils ont réussi à mobiliser la planète entière autour de la première, de la création du premier fonds onusien pour s'attaquer aux pertes et dommages. Donc, si on fait le bilan de ce qui s'est passé hier, on s'est vraiment attaqué à un élément qui a été très longuement bloqué par des grandes puissances comme les États-Unis, l'Union européenne et les États-Unis pendant très longtemps.
Je comprends l'idée de base, mais il y a quand même beaucoup de détails qui sont pas réglés. Il n'y a pas d'entente sur les montants de façon très claire. Il y a un principe, d'accord avec vous, mais il reste beaucoup de choses quand même à préciser.
Ben, il y a quand même un annexe, un document qui a été adopté, qui définit en fait que d'ici mars 2023, il y aura une discussion sur certaines modalités. Mais on s'est déjà entendu sur plusieurs choses. La première, c'est que les sources, ce ne sera pas juste des sources publiques, mais on peut aussi vérifier s'il est possible d'amener les institutions du secteur privé, les institutions, les industries, les compagnies fossiles, si on peut aller chercher, par exemple, le soutien des banques multilatérales afin que la contribution, elle ne se limite pas à ce qu'on connaît déjà à l'aide publique au développement. Et donc, de ce point de vue-là, s'il est vrai qu'on ne peut pas créer un fonds en deux semaines, ben on s'est déjà doté d'un plan de travail ambitieux, certes, mais qu'il va falloir terminer d'ici 2 ans. Donc oui, vous avez raison, les détails ne sont pas encore réglés, mais le plan de match est quand même clair.
Maintenant, partout, là, je fais le tour ce matin, beaucoup de journaux en Europe, beaucoup de groupes qui étaient présents à la COP disent, et là je reprends l'image, on s'entend peut-être sur l'idée de dédommager, mais l'urgence climatique doit attendre. Il n'y a pas vraiment de conclusion d'accord là, pour revoir la réduction des gaz à effet de serre. Qu'est-ce que vous en dites?
Ben, c'est sûr. Écoutez, moi, quand je viens à la COP, je pense pas seulement aux conséquences des changements climatiques, je pense aussi aux causes. Et ici, depuis 30 ans, des grandes puissances, les pays pétroliers, ont vraiment réussi à bloquer tout progrès pour qu'on puisse se doter des moyens, d'outils pour s'attaquer aux causes des changements climatiques. Et donc, hier, ce qu'on a vu pendant toutes les 2 semaines, ce sont des menaces des pays pétroliers qui ne voulaient pas faire avancer, en fait, la question des énergies fossiles pendant le sommet. Et donc, pour moi, ce que je vois, c'est un reflet que nous apprend, en fait, la création de ce fonds-là. C'est que en ce qui concerne les conséquences du changement climatique ou les causes, les arguments sont les mêmes. Et donc, il va falloir en fait se mobiliser, gagner en fait les conditions pour faire ces changements-là pour la COP28. Ce sont les mêmes pays en fait qui demandent qu'on s'attaque aux énergies fossiles, qui ont réussi hier à faire la percée historique sur le fonds de dédommagement afin de contrer les impacts des changements climatiques. Et donc, moi, ce que je vois, en fait, c'est 2 choses. D'abord, il va falloir que cette coalition qui a vu le jour hier, qui voulait qu'on se dote d'outils pour arrêter l'expansion aux énergies fossiles, soit beaucoup plus visible, mettre de l'avant un plan de match en début de 2023 et qu'on se prépare en fait à un sommet extrêmement difficile, la COP28, parce que, je ne sais pas si vous avez vu la liste, mais le plus grand nombre de lobbyistes de l'énergie fossile venaient en fait de la présidence du pays qui va nous accueillir à la COP28 l'année prochaine.
Justement, en terminant, parlez-moi un peu de la façon dont le Canada ressort de ce sommet.
D'un côté, M. Arcan, il va falloir que je salue en fait le côté progressiste du gouvernement du Canada sur la question du fond, parce que depuis le début, le Canada s'est montré quand même assez ouvert à l'idée du fond. Il a quand même osé en fait de contredire les États-Unis et l'Union européenne à plusieurs reprises, mettant de l'avant les intérêts des pays les plus vulnérables aux côtés des intérêts des pays alliés. Et donc, de ce point de vue-là, il faut saluer le courage de l'équipe diplomatique du Canada. D'un autre côté, M. Arcan, le Canada demeure un pays pétrolier. On a amené des lobbyistes de l'énergie fossile à la COP27. 7 et en même temps, ils ont été à la fin du sommet, ils ont montré un soutien face aux efforts pour contrer la montée de l'expansion des énergies fossiles, mais c'était peut-être un peu trop tard. Et donc, il va falloir que le gouvernement du Canada en 2023 soit beaucoup plus visible, clair. On peut pas juste se donner une image de principe. Il faut aussi montrer comment le Canada va faire en sorte d'arrêter en fait l'expansion de l'énergie fossile dans les années à venir.
Merci, M. Pérez. Eddie Pérez, c'est du réseau Action Climat Canada. Il a participé à la COP27.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan.
Bon, on a vu tous ce reportage en fin de semaine de JE concernant comportement abusif d'un entraîneur de basketball et des comportements là autant sur le plan verbal que de la violence physique. Danny Vincent, on se dit, mais comment ce gars-là a réussi à se faufiler pendant des années avant d'être finalement congédié? Québec qui a ordonné une enquête. Et ça fait beaucoup d'événements qui impliquent le sport de haut niveau. On l'a vu là depuis les peut-être deux dernières années. Violence physique, violence verbale, dans certains cas des abus sexuels. Sylvain Croteau est directeur général de Sport Aide. C'est un organisme donc qui a reçu quand même beaucoup de demandes d'aide et d'informations concernant des abus potentiels dans le monde du sport. Monsieur Croteau, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
Donc, si vous aviez à faire un bilan aux auditeurs ce matin, là, est-ce qu'il y a plus de plaintes? Est-ce que on en parle plus? Il me semble qu'il y a beaucoup d'athlètes actuels et passés qui décident de mettre sur la place publique ce qu'ils ont vécu pendant des années.
Ben, effectivement, on s'aperçoit que l'actualité nous rapporte plusieurs événements depuis quelques années. Puis j'ai envie de dire, enfin... Et malheureusement, dans la même phrase, malheureusement parce que pour les victimes, c'est toujours triste de réaliser que des histoires comme celle-là qui arrivent alors qu'on devrait faire du sport pour le plaisir, mais enfin parce que ça entrouvre la fenêtre sur la discussion, sur la prise de conscience collective qu'on doit tous faire. Einstein disait que le monde est menacé, pas par ceux qui lui font du mal, mais par ceux qui regardent et ne font rien. Ben là, moi, j'ai envie de dire assez, c'est assez. Merci à ces gens qui sortent et qui dénoncent les situations parce que ça permet à un petit Sylvain ou à un petit une petite Josée quelque part qui vit peut-être quelque chose de réaliser que ce qu'il vit est inadmissible, inacceptable, qu'heureusement ici au Québec, par contre, il existe des services que l'on peut demander de l'aide, que l'on doit demander de l'aide. Ce n'est pas honteux de demander de l'aide et de profiter des services qui sont à notre disposition ici au Québec.
Vous recevez combien de signalements par année de cas potentiels d'abus?
Ben nous, cette année, le 1er mai 2022, ça faisait bon déjà 4 ans que notre service d'écoute et d'accompagnement existe. Et dans nos 3 premières années, bonhomme à l'heure, on avait entre 300 à 400 interventions par année. Cette année, au cours des 6 derniers mois, on a déjà dépassé le cap des 600 interventions. Bon, maintenant, il faut relativiser, là, ce ne sont pas tous des situations... pas toutes des situations dramatiques. Il y a, oui, des situations dramatiques, mais il y a aussi parfois des gens qui nous appellent pour valider des comportements, prendre de l'information, s'assurer que ce qu'ils vivent est normal ou anormal. Et puis, oui, il y a des cas dramatiques comme ceux là, qui font malheureusement les manchettes.
Qu'est-ce que vous avez comme plainte, disons, est-ce que ça revient toujours à des entraîneurs de haut niveau, de calibre de compétition élevé, qui ont des méthodes du passé, qui abusent, qui gueulent, qui chialent?
La question est vraiment très intéressante, puis ça va permettre là aussi de venir, je vous dirais, équilibrer, relativiser les choses. Oui, on a des situations d'entraîneurs abusifs, effectivement, mais quand on consulte la recherche et qu'on consulte, nous, nos données, on s'aperçoit que la violence en contexte sportif provient d'abord et avant tout des sportifs eux-mêmes. Après 70 % des cas, envers un coéquipier, envers un adversaire ou envers soi-même. Mais il en demeure pour moi qu'il y a aussi, fort malheureusement, des violences qui proviennent des personnes en position d'autorité. Là, on pense aux entraîneurs, évidemment, puis des parents aussi, parfois.
OK. Est-ce que ça se voit plus souvent dans des sports d'élite? Parce que les cas qu'on voit, ce sont des entraîneurs, là, par exemple, d'un club collégial ou encore des gens qui atteignent quand même certains niveaux de performance. Ou si vous retrouvez ces abus, cette violence verbale, physique à tous les niveaux?
Ben, nous, on a une réponse à ça. Nous, la violence en contexte sportif, là, ça va de l'élite au Timbits. Mais il en demeure pour moi que quand on s'approche de l'élite, effectivement, le facteur de risque augmente. Mais chez les tout-petits aussi, on remarque des situations d'abus, d'intimidation, d'exclusion, de violence. Là aussi, dans le récréatif, on l'observe aussi. Puis je vous dirais qu'on l'observe aussi. Nous, on a déjà eu là des appels de personnes qui sont encore pratiquantes dans le sport à 50 ans et plus, qui ont vécu ou qui vivent des choses dans leur pratique actuelle. Alors, il n'y a pas vraiment de portrait type de victime.
Merci, M. Croteau. Bonne journée. Sylvain Croteau est le directeur général de Sport Thèse. C'est un organisme qui reçoit les plaintes et qui donne un coup de main à ceux qui vivent des situations qui ne sont pas normales dans la pratique du sport.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Alors, nous nous sommes tapés, Alain et moi, ce livre qui s'appelle « Au cœur du vestiaire ». C'est écrit par Mathias Brunet.
Mais très agréable à lire, par contre.
Absolument. Absolument, parce que c'est la vie, c'est l'histoire, avec un paquet d'anecdotes de Pierre Gervais, qui a été responsable de l'équipement du Canadien pendant 35 ans.
Mm-hmm.
Monsieur Gervais, bonjour.
Bonjour, vous deux.
Là, l'idée d'écrire un livre, parce qu'il y a cette phrase qui doit être « Ce qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire », ça a dû vous trotter dans la tête avant de dire « OK, on le fait ».
Assurément. Sauf que je dévoile rien de vraiment gros, puis de rien de personnel non plus. Si tu vas dans le personnel, là, jamais j'aurais été là. On parle de cas du vestiaire, ainsi de suite, là, jamais de la vie j'aurais payé. Il n'y a personne qui a assez d'argent pour m'acheter là-dessus. Mais j'ai été le plus loin que j'ai pu, que j'ai pensé dans toutes les sphères de mon travail. Il n'y a rien que j'ai pas dit, puis Mathias a écrit de façon magistrale, là, super, que... Même lui, t'as surpris des fois, mais pour moi, c'était correct. Mais tu sais, à un moment donné, j'ai pas débossé des bombes.
Mais est-ce que t'as hésité? Parce que celui que t'écorches le plus, c'est Dominique Ducharme dans le...
Oui, j'ai hésité. J'ai hésité certain parce que je suis pas un gars de même. T'sais, tout le monde me connaît, ça fait des années. J'ai jamais dit rien de mal contre personne. Puis, sauf que là, je me suis toujours dit, si je fais un livre, je vais dire des vraies affaires. Puis si tu dis des vraies affaires, ben c'est pas les vrais pour un, puis pas les vrais pour l'autre, puis... Je dis tel que c'est, tel que c'était.
Mais clairement, ça veut dire, là, puis là, je résume, là, c'est il a jamais perdu son vestiaire parce qu'il l'a jamais eu.
Oui, mais c'est pas méchant. C'est juste que puis j'ai eu plein d'adjoints dans ce stade-là dans les années passées. Là. T'sais, on se rappelle Jacques Laperrière, puis on se rappelle de. C'était des adjoints, point final. Ils savaient leur poste, ils savaient où est-ce qu'ils étaient bons, puis that's it. Puis je pourrais même dire comme je rentrerais Kurt Muller là-dedans. Kurt Muller, c'est un adjoint extraordinaire. C'est
Mario.
Un gars qui est super bon. Exact. Puis, mais tu sais, pour être entraîneur-chef, là, c'est quelque chose. Sérieusement, là, dans n'importe quel sport, j'imagine, mais moi, je parle pour le hockey dans le national, là, c'est vraiment quelque chose. Ça prend quelqu'un de... Écoute, Martin Saint-Louis, là, d'après moi, il a tout ce qu'il faut. Tu sais, c'est un gars qui respecte les joueurs, qui regarde dans les yeux, qui est vrai, qui est bon, qui connaît la game. C'est un passionné. Moi, je l'ai vu aller là, pendant quelques mois, là, puis il m'a quasiment fait regretter. mais tout ça pour dire que c'est ça. C'est un gars passionné, puis c'est un gars que les gars le sentent. Les joueurs, là, en partant, ils le respectaient. Ils savaient sa feuille de route, en partant. Puis, ben c'est ça. Fait que, tu sais, c'est pas donné à tout le monde ça, puis c'est pas tout le monde qui s'évalue à ce niveau-là, mais moi, qu'est-ce que je vous dis? J'ai dit ce que c'était, puis...
Et l'autre chose que je remarque, c'est que la plupart des entraîneurs, ce sont des gens organisés, Tu parles de Dominique, c'était souvent à la dernière minute, c'était souvent tu savais pas trop à quoi t'attendre, changer d'idée à la dernière seconde, alors que les autres, tu parles de Claude Julien, Alain Vigneault, c'est des gars organisés.
Un entraîneur de carrière, là, c'est exactement, c'est organisé. Il faut que tout le monde alentour, les joueurs, le personnel, sente que le coach est en contrôle. C'est le coach, il sait où est-ce qu'il s'en va, on sait ce qui se passe, on sait ce qui s'en vient. Puis comme je dis dans le livre, c'est sûr qu'il y a des imprévus. Tu sais, ça peut être la température, ça peut être la maladie, ça peut être n'importe quoi. Ça, c'est sûr, je comprends ça, mais il reste que tu as une certaine base là-dedans. Puis ça, pour moi, c'est hyper important. Les coachs ont peut-être pas idée comment c'est important. Moi, je le vis à l'intérieur du vestiaire. Fait que, tu sais, quand ça arrive à répétition, à un moment donné, ben, les gars, ils perdent.
Mais vous avez vu des changements, 1986, première Coupe Stanley, là, puis 93, l'autre, sur l'attitude des joueurs, leur implication pour vrai dans un club par rapport à des petites PME qui te disent ben si ça fait pas ici, ça va faire ailleurs. Là, ça, vous l'avez senti?
Oui, je l'ai senti. Puis, tu sais, à un moment donné, c'est l'argent qui a fait une grosse différence là-dedans. Tu sais, tu t'es mis à avoir des gros contrats, puis les gars se sont mis à avoir le choix, et ainsi de suite. Là. Fait que les réseaux sociaux, les téléphones cellulaires, écoute, c'est quasiment tout arrivé en même temps quand on pense à ça. Là. Fait que ça a fait un grand changement. Moi, je l'ai vu là avec les représentants de sport. Tu sais, avant, un gars voulait essayer, mettons, le gars était sur contrat avec CCM, avec des bâtons. Il voulait essayer des bâtons Bauer, ben il passait par moi. Moi, je parlais au représentant Bauer, on faisait faire des samples, puis... Mais il est venu un temps que tout ça, j'étais bien passé, moi, là. C'était, tout ça, il se faisait entre eux autres. Puis là, il y avait des patins, des bâtons au nom de tel joueur. Je dis, là, j'appelais le représentant, c'est quoi ça? Mais c'est le gars, il communiquait directement. Mais tout ça s'est fait en même temps. Puis c'était pareil dans la ligue partout, là.
Là, on va faire un petit exercice ce matin avec vous, avec l'ami Ron Fournier, qui a préparé une série de noms. Puis on va vous demander de commenter sur chacun des joueurs. Pierre Gervais est avec nous ce matin, son livre Au cœur du vestiaire. On écoute.
Alex Kovalev.
Que dire sur Alex Kovalev?
Fantastique. C'est le meilleur attaquant que j'ai vu avec le Canadien, personnellement.
Le plus gros travaillant ou...
Non.
Ça coucouille-vous?
Écoute, le gars est vraiment incroyable. Incroyable. Il a été mal vu à Montréal, différents plans, mais Sakou, c'est une personne incroyable.
Vous racontez dans le livre une anecdote personnelle, parce que vous êtes séparés à un moment donné, vous ne savez pas trop comment vous organiser. Lui quitte Montréal, puis il vous offre son condo.
Écoute, tu sais, on peut dire ce qu'on veut... Tu sais, souvent, les gars disent, ouais, mais eux autres, c'est facile, ils ont de l'argent, tu sais, mais c'est pas grave, c'est le geste. Le geste, puis à l'époque, là, c'était encore des chèques post-datés, là, ça fait un petit bout de temps d'ailleurs. Fait que c'était encore, puis il m'a dit, regarde, tu viens chez nous, le cellier est là, tu t'installes, le parking du garage, je te laisse 20 chèques pré-signés, quand le bill d'hydro rentre, le bill de l'hydro-rente, puis, tu sais, ça prend une méchante confiance, puis ça prend un grand cœur faire ça, là. Même si t'as pas là de l'été,
mais t'as pas obligé de faire ça.
Pas en tout, c'est vraiment touchant.
Pacioretty.
Non, écoute, c'est dommage, mais là encore là, je l'avais quitté. C'est patch et patch. C'est un gars qui est élevé, je pense, dans l'argent, puis à se faire dire que t'as beau, que t'as faim toute sa vie, comme bien des joueurs pendant l'année nationale, mais lui, ça avait peut-être monté en tête, puis à un moment donné, son la fameuse. Épopée de son machine blamée sur la route. Il l'a pris personnel. T'sais, c'était comme le genre de gars qui dit non, ça ne marche pas. Là. C'est moi qui mène ça. Là. C'est moi le capitaine, c'est moi le joueur, puis je m'excuse. C'est une question de place. Une question. Puis à toutes les fois, je relançais. C'est ça qui me tannait là-dedans. Moi, j'ai pas peur des joueurs, puis je vais les voir dans pleine face, puis j'ai jamais parlé de ça de ma vie. Puis quand j'allais voir, patch, je te l'ai dit, ça ne rentre pas. Il faut. Les gars de médical, là, ils amènent une tonne de stock sur la route. Ils montent une clinique à l'hôtel, là. C'est digne d'une clinique de médicale, de l'armée, n'importe où, tu sais. Fait que je dis, dis-leur qu'ils enlèvent un coffre de moins. Je vais mettre ce coffre-là, ça me fait plaisir. Puis là, ben, finalement, ils disent, dans ma face, ils disent tout le temps, pas de problème, je comprends, Dieu, pas de problème, I understand, là. Puis là, je me reviens de bord, puis ils parlent à quelqu'un d'autre par en arrière, puis c'est venu jusqu'à Marc Bergevin. Il dit, c'est bon, ça va aller à Jeff Monson la prochaine fois, puis. Puis même le gars d'Air Canada, là, le mécanicien qui s'occupe de l'avion pis tout ça, il me disait, j'ai parlé à un moment donné, il dit, irais-tu de la place? Admettons qu'on l'amène en taxi à part. Puis il dit, non, j'ai pas de place, je suis plein, je suis au plafond.
Mais lui, il avait été choisi capitaine par un vote des joueurs. Puis je me souviens qu'à l'époque, on disait, c'est parce que les gars voulaient pas piquer comme capitaine.
Mm-hmm.
C'est lui qui a eu le C.
Ben écoute, moi, c'est bien personnel, là. Moi, je me suis toujours dit, un capitaine... C'est pas si important que ça. c'est tes leaders, souvent, c'est des gars qui ne seraient pas des bons capitaines, mais des leaders. Puis je me réfère en 2021. Là. Je suis très content de voir Nick Suzuki en passant. C'est vraiment le bon capitaine. C'est vraiment le. Lorsqu'ils l'ont choisi, je suis bien, bien content. Sauf que un capitaine, tu sais, dans la chambre, là, c'est plein de leaders, c'est plein de monde. Carey Price n'a jamais utilisé son chandail, puis c'était un vrai leader. Puis les gars le regardaient de haut, puis ils étaient vraiment fiers de lui. Donc, tant qu'avoir un capitaine qui ne fait pas l'affaire, t'en as pas.
Plekanec?
Plekanec, écoute, c'est un des joueurs les plus professionnels que j'ai eu dans ma vie. Il était toujours là, très de bonne heure. Il pratiquait, il était vraiment, là, en anglais, on dirait hockey-minded, là. Il était vraiment, vraiment bon pour ça. Il pratiquait même le dimanche. Une petite anecdote, souvent, on avait des journées de congé le dimanche, puis Brassard, il y avait quasiment personne qui patinait. Fait que des fois, j'amenais mes enfants, puis on avait, mettons, 3 heures de pratique de fête, puis Plekanec amenait ses enfants, puis il pratiquait, mais il pratiquait pas pour amener ses enfants, il pratiquait pour pratiquer. Lui, ce gars-là, là, ça s'arrêtait pas, là. C'est vraiment un professionnel que j'ai adoré, puis c'est un gars fantastique.
Markov!
Hey, Andrew Markov. C'est un gars... c'est un gars... différent, qui dégage autre chose à l'intérieur du vestiaire que ce qu'il dégage de l'extérieur.
Lui, il n'aurait pas passé son condo avec des chèques.
Non, lui, bon, il me l'aurait passé, mais j'aurais un bill à la fin de au bout de l'instant, en septembre, j'aurais un bill.
C'est pas un gars qui dépense.
Non. Hey boy, non, Marky, c'est pas un gars qui dépense.
Gallagher,
fantastique. Ça, c'est un gars qui va à la guerre, c'est un joueur de hockey, c'est un vrai joueur de hockey. Puis je le dis, là, lui... Entre les périodes, là, c'est pas leur faire son petit tapage, ses bâtons, puis de la cire, puis des belles petites affaires. Lui, c'est tout croche. Il sac son équipement là, puis il se repose. Puis il veut aller à l'autre période d'après. C'est un gars extraordinaire.
Carey Price.
Carey, j'ai tellement de respect pour lui. Puis ça n'a rien à voir avec le fait que c'est un gardien big extraordinaire. Carey, je l'ai connu jeune. J'ai passé beaucoup de temps avec lui. J'ai été surpris, puis ça me fait de la peine en même temps de ce qui est arrivé. Mais, écoute, je peux comprendre. Puis le gars, c'est un gars qui est tellement terre-à-terre. C'est un gars qui est tellement simple et bon et fin. Jamais j'étais voir Carey pour dire « faut signer une petite affaire pour quelqu'un ». Jamais, en 1000 ans, qu'il m'a toujours dit « Jerv, anytime ». Fin, intelligent, fantastique.
Jonathan Drouin.
Jonathan, c'est un gars qui est différent, qui est très sympathique, que j'aime bien, j'ai bien aimé. Il a dévoilé ses petits problèmes de santé mentale. J'ai perçu que c'était un gars qui était vraiment dans la lune, dans la lune souvent. Oublier d'éteindre ta voiture dans le parking en bas, puis d'oublier de fermer ta douche, c'est ça. Mais j'entends toi, c'est à zéro malice. Là. Il a du talent, il est super fin.
P.K. Subban. C'est mon préféré.
Oui, là. Je sais. Là, je suis en terrain glissant. Là.
Non, mais je suis prêt à entendre la vérité.
Oui, mais P.K., c'est P.K. P.K., c'est un gars qui est... Écoute, on va commencer par les fleurs. Il est super gentil, super fin, super poli. Lui non plus n'a jamais refusé rien. Des fois, des gens qui m'ont approché, puis regarde, mon petit gars est malade, puis tout ça, puis P.K. Jamais que... Jamais qu'il a dit non. Puis jamais qu'il a fait voir que ça ne tentait pas. Puis avec nous, le personnel était super fin, super poli.
Mais?
Sauf que... Piqué, mais c'est un gars qui était dérangeant. C'est un gars qui... tout le monde le sait maintenant. Là, c'est un gars qui... Il en a l'âge, puis il ne pouvait pas rien faire. C'est ce qui me tannait un petit peu de Piqué, là, honnêtement. Là. Il ne pouvait pas rien faire de charité sans que sa gang le suive, les caméras le suivent, tout le monde le suive. Moi, j'ai su... des Shea Weber puis des gars du Canadien qui sont allés faire des visites à l'hôpital d'eux-mêmes. Personne ne l'a su. Les médecins me l'ont dit par après. Piqué, c'était pas ça. Une fois, il me dit, est-ce qu'on a 2 minutes?
Ben oui.
Une fois, il me dit, hey, Jerv, demain, dimanche, on a congé, mais là, je amène une gang d'enfants à Brassard, je vais déguiser en clown, puis ils ne savent pas que c'est moi, puis... T'sais, je vois une perruque, tout ça, puis après ça, on va patiner, puis là-bas, puis je trouvais ça super fin, super cool. Jusqu'à ce que je vois le trou de télévision arriver. Il était à 8, je pense, puis des caméras, puis Kodak, tout ça. Et boy, ça m'a un petit peu désenchanté. Le geste était extraordinaire, mais il ne pouvait pas faire de geste comme ça sans justement avoir les caméras.
Je veux pas qu'on parle des secrets de vestiaire, oui. Mais est-ce que
quand on est responsable de l'équipement, puis qu'on fait partie de l'équipe autour, puis, tu sais, on parle de jeunes de 20 et 22 ans qui sont millionnaires, là, puis célibataires dans bien des cas au début, puis qui s'amusent en ville, puis tout ça. Est-ce qu'il y a une préoccupation de savoir ce qui se passe ou si vous entendez de dire au DG ou au coach, écoute, je pense qu'il y en a un qui est en train de glisser, là.
Écoute, moi, honnêtement, je me suis jamais mêlé de ça, sauf si ça avait été une question de drogue ou une question de... Tu vois que le gars, là, comme les frères Costin, il avait des relations douteuses, là. Mais je me mêle pas de ça, honnêtement. Puis j'ai vu des derniers jours, moi, je suis pas sur les réseaux sociaux, puis il y en a qui m'ont accusé de briser le code du vestiaire, mais pas en tout. Il y a personne là-dedans qui peut dire que... Juste entre toi et moi, ou des affaires de la même, je suis pas allé si loin que ça. Je suis allé le plus loin que j'ai pensé aller, mais pas allé si loin que ça. Fait que c'est sûr que les gars, la tentation, c'est incroyable. Tu sais, les gens réalisent pas qu'à d'avoir des joueurs, je le disais tantôt, comme Max Pelletier, mais t'as des joueurs qui se font dire depuis qu'ils sont jeunes. Souvent, les gars, là, ça commence à l'âge, puis oui, avant ça, puis c'est des meilleurs, puis t'es fin, puis ainsi de suite. Puis les gars arrivent dans la Ligue nationale, tout le monde te reconnaît, les petites filles te trouvent toutes beaux, puis tu vas partout, puis tout le monde veille pour toi. Fait que c'est top, ces gars-là.
Juste, il y a une anecdote. J'aurais jamais pensé que la rivalité Québec-Nordique, à l'époque, faisait en sorte qu'il y a des taxis qui voulaient pas vous prendre.
Je peux pas croire qu'on était comme ça à Québec.
Je peux pas croire que les voisins de Crète étaient de même.
Ah, non.
Des restaurateurs qui voulaient rien savoir.
Ah, c'est sérieux, c'est vrai, là, c'est vraiment vrai, là. Mon jogging, il y a toujours que la parière, c'est plein d'Abraham, de se créer des bêtises, puis. Ah non, c'est vraiment vrai.
Ça.
Ça se peut pas, Alain, que ça arrive des affaires comme
non,
ça.
Non, c'est-tu quoi? On remplissait l'essence du camion à. C'est quoi avant? Lévis, c'est.
Saint-Nicolas ou dans ce coin-là, ouais, là, avant de traverser le pont.
Exactement
là.
Ça. On faisait le plein parce qu'après ça, c'était fini. On venait à pied. On venait à cheval.
Mais vous aviez votre restaurant à Québec, par contre.
Oh, yes. Yes, yes. Oui, effectivement.
Et la passion pour le vin, ça a commencé comment?
Ça a commencé à Sherbrooke. J'ai un ex-beau-frère qui trippait là-dessus un petit peu. Puis il y avait des amis qui étaient médecins. Puis il y avait des amis qui étaient médecins. Puis eux autres étaient vraiment là-dedans, big time. Puis à l'époque, c'était pas connu, le vin. Les gens au Québec venaient de je parle des années début 80, là. Mm. Et puis, ils m'ont fait rencontrer un monsieur qui s'appelait Raoul, le SQ à Sherbrooke, qui était un passionné de vin. Puis là, de fil en aiguille, écoute, ça a parti, là. J'ai lu tout ce qu'il y avait encore à ce jour. Je suis vraiment passionné de vin. J'adore ça.
Vous dites dans les, je connais chacune de mes bouteilles. Je les choisis personnellement. Puis des fois, c'est frustrant de voir des gens qui ont beaucoup de moyens, qui achètent en grosse quantité puis qui savent pas pendant tout ce qu'ils achètent. Là.
Exact. Parce que pour moi, ben probablement, ces temps-ci, je suis en train de dépurer pas pire. Moi, j'aime pas même la poussière de la cavale. Comment ça commence à avoir des poussiéreuses. Mais effectivement, c'est... Écoute, moi, je voudrais pas vivre ça. J'aimerais avoir leur compte de banque, là, mais j'ai tellement de respect pour le vin que chaque bouteille que j'ai achetée, elle coûte 2, 3, 4, ici et là, partout. Je les avais choisies avec amour, puis de nos jours, je les partage avec mes enfants, mes grands, ils viennent super à la maison souvent, avec amour. Puis pour moi, c'est hyper important.
Pierre Gervais, merci beaucoup. C'est vraiment gentil d'être venu nous voir.
Ça fait plaisir.
Pierre Gervais, donc, qui a été préposé à l'entraînement du Canadien, l'équipement, pardon, 35 ans au cœur du vestiaire. C'est le titre du livre écrit par Mathias Brunet.
L'essentiel de Paul Arcand.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.